Du fameux psaume 119, le psaume le plus long. Et mes souvenirs sont bons, c'est au verset 105. Bien, alors je suis heureux d'être à nouveau parmi vous ce matin pour apporter la parole. Merci à Christophe de nous avoir introduit, d'avoir prié déjà pour ce message. Et ce mois-ci, donc le mois de janvier 2017, dans le cadre des études bibliques et des groupes de maison, nous entamons une réflexion sur ce que l'on a appelé la théologie de la conquête, en nous inspirant largement du livre de Josué. Alors quand on parle de conquête, il s'agit bien entendu de la conquête de Canaan, hein, ce pays qui est décrit comme un pays où coule le lait et le miel. En tout cas, c'est l'expression biblique qui ne revient pas moins de 24 fois dans l'Ancien Testament quand on parle de ce pays promis. Et quand on parle de théologie de la conquête, c'est une manière de dire que cette période particulière de l'entrée du peuple d'Israël en Canaan est riche d'enseignements pour nous qui sommes au XXIe siècle. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, il disait que tous les événements concernant le peuple d'Israël, qui va notamment de l'époque de la sortie d'Égypte jusqu'au pays de Canaan, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, Paul a dit que ça, c'est arrivé pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Et dans cette théologie de la conquête se détache en fait une vérité centrale, à savoir que cette terre que Dieu a promise à son peuple, ben au final, il va lui accorder. Ce que Dieu promet, donc, il va l'accomplir, mais à condition que son peuple fasse preuve de foi et d'obéissance. Et d'ailleurs, dès le chapitre 1er, versets 7 et 8 hein, de Josué, Dieu fait une mise au point. Ensuite, il met les choses au clair, il dit « Simplement, prends courage, tiens bon pour veiller obéir à toute ta loi, à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter, ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. » Quand il parle de succès, là, c'est... Il parle de la conquête du pays de Canaan. Donc voilà ce que l'Éternel a dit à Josué au moment où il s'apprête à conquérir le pays promis. Toutefois, Israël avait déjà eu une première occasion de conquérir le pays de Canaan 40 ans avant que Josué ne conduise son peuple justement dans ses terres. Alors du coup, aujourd'hui, je vous propose non pas de baser notre réflexion sur un passage qui serait tiré du livre de Josué, mais de nous focaliser sur un acte manqué d'Israël, une occasion perdue qui a eu des conséquences graves sur le processus de la conquête du pays promis. Et nous essaierons de tirer des leçons de cet épisode, un épisode tragique, dramatique, malheureux, de l'histoire du peuple d'Israël. Alors, on va lire ensemble dans Nombre, le livre de Nombre, au chapitre 13. Alors, quelques versets du chapitre 13 et quelques versets du chapitre 14. On va commencer par Nombre 13, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit : Envoie des hommes, un de chaque tribu, choisi parmi les chefs, pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Moïse envoya des hommes depuis le désert de Paran, comme l'Éternel lui avait demandé. C'étaient tous des chefs des Israélites. Alors on va sauter quelques versets, on va nous retrouver au verset 25 jusqu'au verset 33. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran, à Kadesh. Ils leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses et nous avons même vu des descendants d'Anak. Il voulait parler de géants là. Les Amalécites occupent la région du Néguev, les Hittites, les Ébousiens, les Yébousiens, et les Amoréens tiennent la montagne. Les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Alors Caleb, qui faisait partie donc des espions, essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit, excusez-moi, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites, en disant, le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles, et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Alors, on continue dans Nombre 14, versets 1 à 9. Alors, toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert !» Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphoné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements, et dirent à toute la communauté des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays. Car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. » Nous allons arrêter notre lecture jusque-là, mais nous ferons allusion à d'autres passages que nous n'avons pas forcément lus. Alors, voici le plan de ce message. Nous allons d'abord parler du contexte, hein, de ce passage que nous venons de lire. Ensuite, nous nous attarderons un peu sur l'objet de la crainte de ces Israélites. Ensuite, nous verrons leur réaction face à la situation, mais aussi la réponse de Dieu face à cette réaction. Nous verrons aussi quelles sont les raisons de cet échec, et enfin, nous essaierons de tirer des applications pour nous. Alors d'abord, le contexte, c'est un événement qui n'est pas vraiment daté si on regarde dans la Bible. On a quelques indications, parce que trois chapitres plus tôt, en Nombre 10, verset 11, la parole dit que le départ de Sinaï a eu lieu dans la deuxième année après la sortie d'Égypte. Donc ça, c'est un indice. Et en tout cas, il y a eu un laps de temps relativement court, peut-être à peu près 2 ans, hein, estiment les spécialistes, entre le moment où le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage et le moment où il arrive justement aux portes de Canaan, à Kadesh Barnea. 2 ans à peu près, hein, 2 ans donc pendant lesquels le peuple a été témoin pourtant d'actes extraordinaires de Dieu en leur faveur. On se souvient de cette colonne de nuée, hein, on voit ça dans Exode chapitre 13, la colonne de nuée le jour et la nuit une colonne de feu, en permanence. On se souvient bien sûr aussi du passage à sec, de la mer des roseaux, les cailles, la manne, etc. Donc 2 ans pendant lesquels le Seigneur fera preuve d'une grande patience aussi, de bienveillance malgré les murmures du peuple. Il a fait jaillir de l'eau des rochers pour étancher la soif, il a envoyé les cailles, la manne pour nourrir le peuple. Et 2 ans auraient été suffisants pour se souvenir et être convaincu de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la patience de Dieu. Bref, que Dieu est un Dieu merveilleux, magnifique. Donc le peuple d'Israël, en arrivant aux portes de ce pays qui a été promis, aurait dû être confiant, fort de tout ce qu'avait fait l'Éternel en sa faveur, n'est-ce pas? Parce que 2 ans, c'est, on peut dire que c'est relativement court. Je ne sais pas si vous vous souvenez exactement ce que vous avez fait il y a 2 ans, mais s'il y a eu pendant ces 2 ans-là des événements marquants, vous vous en serez peut-être souvenu. La mémoire, donc, théoriquement, devrait être encore assez fraîche pour les Israélites. Et donc, arrivé à la frontière de ce fameux pays promis, Moïse envoie donc 12 éclaireurs pour reconnaissance, pour tâter un peu le terrain. Et il reste 40 jours dans le pays et revient faire le rapport que nous avons lu tout à l'heure dans le verset 27. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et pour confirmer leurs propos, ils ramènent des fruits. Alors, il est dit qu'ils avaient amené des grappes de raisin tellement lourdes qu'il fallait 2 hommes pour porter, des figues, etc. Donc implicitement, ils confirment bien que ce pays est un bon pays où coule le lait et le miel. Ils confirment donc que, du côté de Dieu, rien ne manque. Leur témoignage est là pour corroborer tout ça. Mais il y a un mais. Et quel est donc l'objet de cette extrême réserve, pour ne pas dire l'extrême inquiétude qui s'empare de la majorité des espions? Quel est cet objet de cette crainte? Ce sont les géants. Surtout les géants. Alors, 10 des 12 espions, faites le calcul, 83,33%, pour les mathématiciens, là. 10 des 12 espions ont vu tout de suite, ont vu d'abord, avant tout, les difficultés. Les géants, ils ont mis de côté Dieu. Dieu ne rentre pas du tout en une seule fois en ligne de compte dans leur analyse de la situation. Je dis bien pour les 10 espions parmi les 12. Il y en a 2 autres qui ont vu les choses autrement. Caleb et Josué. Donc le oui, c'est un pays, mais, alors on dit souvent que oui plus mais égale non. Donc moralité vaut mieux dire non parce que plutôt que oui mais. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Et à l'écoute de ce rapport des espions, le peuple est démoralisé complètement. Au lieu de se tourner vers son Dieu, il semble complètement avoir perdu la mémoire, ne plus se souvenir des actes qui ont montré la grandeur de Dieu dans le passé, passé récent. Et donc il voit qu'une chose, les géants. Et bien entendu, quand on voit les choses trop grandes, nous, parallèlement, on devient tout petit. Donc il se voit comme des sauterelles, comme des insectes. Des géants qui paralysent. Des géants qui font peur. Alors oubliez bien sûr la colonne de feu la nuit, oubliez la nuée du jour, oubliez le passage à sec de la mer des roseaux, alors que ce passage à sec là est un événement qui a profondément marqué la mémoire collective du peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Oubliez le cantique de victoire avec Myriam comme chef d'orchestre, etc. etc. Oubliez la manne, la caille, les cailles. 2 ans après avoir été témoin des actions miraculeuses du Seigneur en leur faveur, le peuple d'Israël a tout oublié. Ne pense pas une seule seconde que Dieu est capable d'intervenir, encore une fois. Alors, ça me fait penser à une expérience qu'on a eue avec mon épouse, Nerinsu, quand nous avons entrepris de nous lancer dans des études de théologie, il y a de ça bientôt 5 ans. Eh bien, il y avait un géant qui se dressait devant nous, qui nous impressionnait, c'était l'aspect financier de ce projet. Et personnellement, on doit bien avouer qu'on avait des sentiments de crainte, et la crainte c'était surtout face au montant des frais de scolarité de cet institut biblique, donc, qui était pour nous, en tout cas au regard du pouvoir d'achat qui était le nôtre à l'époque, pour nous c'était vraiment exorbitant, c'était très très cher. Et pourtant, 2 ans avant, eh bien, le Seigneur avait fait beaucoup de choses dans notre vie. À un moment donné, donc, peut-être que vous connaissez cette histoire, mon épouse Nerinsu était tombée malade, et puis À Madagascar, là où nous étions, c'était pas possible de la soigner là-bas. Donc, on a essayé de trouver une solution pour la faire venir en France. Mais ça a coûté énormément. Et le Seigneur a fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais a fait des miracles, tout simplement. Des miracles. Et on a été vraiment impressionnés par la manière dont il a conduit nos vies à ce moment-là. Et donc, je reconnais vraiment que quand nous devions maintenant être confrontés à ces problèmes de montant de frais de scolarité, 2 ans après, parce que c'était en 2012, eh bien, nous n'avons pas toujours non plus tenu compte de ce facteur, le facteur de l'action de Dieu 2 ans auparavant. Ce qui montre en fait que l'homme a souvent la mémoire courte, et devant les géants, il oublie facilement les actes passés de Dieu, donc il est impressionné devant ce qu'il voit d'abord. Ce qui est visible fait peur. Alors, quelle est la réaction du peuple? Et la réponse de Dieu, la réaction de Dieu aussi par rapport à cette réaction du peuple? Eh bien, on voit au chapitre 13, verset 30, Nombre 13, 30, que le peuple va murmurer. Alors, ça dépend des versions. Dans d'autres versions, c'est murmure. Ici, ils s'en prennent à Moïse. Vous savez, les murmures ont souvent une connotation négative dans la Bible. Ils sont souvent le reflet d'un rejet du Seigneur et ont pour effet de provoquer la colère de l'Éternel. Dans Philippiens 2, 14, 1 Pierre 4, 19, la parole nous demande de nous abstenir de murmurer ou de nous plaindre. Et là, dans le chapitre 14, de ce passage, qu'a fait le peuple? Est-ce qu'il a passé toute la nuit à crier à Dieu, à prier ou à jeûner? Non. Le peuple a passé la nuit à murmurer contre Dieu, à se plaindre. Il s'agissait là de l'attitude de reproche vis-à-vis de Dieu, un rejet du plan de Dieu qui consistait à sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et de conduire en Canaan. Et la preuve, ce rejet du plan de Dieu s'est traduit par quoi? Un désir de retour en arrière, retourner en Égypte, retourner en esclavage. Murmure, et qui se concrétise après par la rébellion, carrément, rébellion. À partir de Nombre 14:4, on constate que les murmures font bientôt place à la révolte. Le peuple se retourne contre Moïse et au verset 10, on ne l'a pas lu, mais si vous regardez dans votre Bible, il parle même de lapider. Rejet de l'autorité que Dieu a mise en place. Et la sentence de Dieu, donc là c'est la réaction de Dieu par rapport à tout ça, elle est très sévère. Au lieu de conquérir le pays, le peuple sera condamné à errer dans le désert pendant près de 40 ans, jusqu'à ce que disparaisse toute une génération d'Israélites, du moins ceux qui sont adultes, ceux qui ont plus de 20 ans. Et donc, c'est une révolte qui est très très lourde de conséquences. Alors, c'est vrai que quand on lit Nombre 13, Nombre 14, on a toujours tendance à critiquer facilement l'attitude des Israélites. Hein. Parce que maintenant, on voit tout ce que Dieu a fait, etc. Mais comment ont-ils pu avoir peur? Donc, les critiques sont faciles, mais ce passage ne fait que révéler en fait la nature profonde de l'homme. Et si on regarde vraiment en nous-mêmes, quelque part, on peut s'identifier à cette réaction. Hein. La nature profonde de l'homme, c'est l'incrédulité. Une incrédulité qui se transforme bien souvent en rébellion, comme ici dans le texte que nous avons lu. Alors, focalisons-nous maintenant sur les raisons de cet échec. Qu'est-ce qui a manqué à ce peuple pour qu'il prenne le nom l'Éternel? Qu'est-ce qui m'a manqué à ce peuple pour vraiment prendre au mot ce que l'Éternel a dit, c'est-à-dire de donner ce pays? Et bien, ce qui a manqué, c'est tout simplement la foi. En fait, il y a deux choses qui ont manqué, c'est la foi, et après on va voir l'obéissance aussi, mais ce n'est pas vraiment l'objet de notre message ce matin, on va se focaliser sur cette foi-là. Alors, c'est vrai que nos inquiétudes peuvent être parfaitement légitimes. Qui ne passe pas par des moments de doute, d'interrogation dans sa vie, notamment quand il y a des obstacles qui sont devant nous? Et souvent, dans ces moments-là, on a plutôt tendance, c'est vrai, à mesurer nos propres ressources, nos propres forces et nos propres possibilités face aux géants. On ne veut prendre aucun risque, ce qui semble une attitude sage, a priori. Hein. On veut d'abord tâter le terrain, on veut apprécier la situation, avant de nous demander si Dieu nous demande vraiment d'y aller. Et résultat, on finit par sombrer, quand on est découragé, on sombre dans le défaitisme. Et dans notre analyse de la situation, on oublie souvent la place de Dieu. On se dit, oui, Dieu, oui, mais... On ne se souvient plus de ce qu'il a fait auparavant dans nos vies. C'est vrai que quand je parlais tout à l'heure de notre expérience avec Marine Chou, quand on a pris le montant des frais de scolarité, on a été un peu comme ce peuple d'Israël. 2 ans auparavant, il avait fait des miracles sur le plan financier. On n'a plus vraiment pensé à tout ça. On se demandait si Dieu était encore capable de refaire la même chose, sans avoir forcément de réponse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre du Deutéronome au chapitre 1, verset 22, on lit que ce sont d'abord les Israélites qui ont demandé à Moïse d'envoyer des espions afin d'être au fait de la situation, de ce qui les attend. Donc ils ne voulaient pas vivre chaque étape par la foi. Parce que si on regarde dans Nombre chapitre 13, on voit que l'Éternel demande à Moïse d'envoyer des 12 espions. Et dans Deutéronome 1, 22, on voit Moïse dit que en fait c'est le peuple qui a d'abord demandé à Moïse. Mais ce n'est pas contradictoire. Le peuple a demandé à Moïse, Moïse s'en est référé à Dieu, et Dieu a demandé d'envoyer 12 espions. Voilà, comme ça, il faudrait prendre la chose. Et donc, en fait, déjà, dès le début, le peuple avait une foi un peu hésitante. Ça fait penser à certaines personnes qui sont persuadées d'avoir un appel missionnaire, mais qui sont bloquées par des géants, notamment par les questions de confort et de sécurité. Oui, je sens que Dieu m'appelle à aller dans tel ou tel pays du Sud. Mais je vous laisse d'abord me renseigner sur les conditions de vie là-bas. Est-ce qu'il y a la télé? Est-ce qu'il y a Internet? Est-ce que toutes les voies sont asphaltées? J'aurai une voiture, un bon système de santé, de sécurité, d'éducation pour mes enfants? Est-ce qu'il y aura l'électricité, l'eau courante? J'espère qu'on ne va pas l'épuiser dans le puits, etc. Vous rigolez, mais c'est une question des fois que les gens se posent. Mais qui dénote quand même des préoccupations autres que le souci d'abord d'obéir à Dieu et de mettre en pratique cette parole qui nous demande de rechercher d'abord le royaume de Dieu, sa justice et toutes les choses nous seront données. Par-dessus. Alors dans les conditions, c'est vrai, nous avons l'impression d'être dans une impasse où des géants se dressent sur nos routes et tendent à nous désemparer. Il y a un élément essentiel à prendre en compte, c'est notre foi. Quelle est la profondeur de notre foi? La foi, ce n'est pas un vague espoir qui consiste à espérer vaguement quelque chose, mais la foi, c'est faire confiance à Dieu sur parole, à compter sur ses promesses, à obéir à Dieu, parfois sans forcément comprendre la logique des situations qu'on peut traverser. Abraham, lui, le pauvre, sa foi a été mise à l'épreuve pas mal de fois. Lève-toi, pof, va dans un pays que tu ne connais pas, je t'enverrai là-bas. Il se lève, il s'en va. Ton fils unique, qui est le fils de la promesse, eh bien tu vas me l'offrir en sacrifice. Aïe, 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 ça c'est dur. Mais en tout cas, deux personnes se sont basées avant tout sur les promesses de Dieu. Il s'agissait de Caleb et de Josué. Ils avaient la foi, la conviction profonde que Dieu est fidèle, et qu'il était avec eux. Ils avaient vraiment la foi, une foi profonde. Et ça fait penser aussi, quand on parle de géants, on ne peut pas s'empêcher de penser à Goliath aussi. Il y avait David qui était là. Et David aussi avait confiance en son Dieu. Goliath nargue les troupes. David le prend vraiment comme une insulte vis-à-vis de son Dieu. Et sa foi est telle qu'il n'a aucune crainte à la perspective d'affronter ce géant. Et il explique d'ailleurs, oui, avant, des lions voulaient manger mes brebis, je les ai pris, je les ai, voilà. Il est en train de se baser sur le passé. Alors, dans le Nouveau Testament, il y avait aussi certains géants, notamment pour les disciples de Jésus. Alors, même que le Seigneur Jésus a été avec eux, ils étaient confrontés à une grande tempête dans la barque, dans Marc chapitre 4. Pour eux, c'était un géant. Comment est-ce qu'on va affronter cette tempête? Pierre aussi avait connu des difficultés quand il avait commencé à marcher sur le lac, vous savez, à la rencontre de Jésus. Il y a eu une rafale de vent. Et pour lui, tout à fait, c'était quelque chose qui l'a paralysé et puis il a commencé à s'enfoncer. Et les disciples eux-mêmes, quand ils étaient face à toute cette foule, 5000 hommes, Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Comment est-ce qu'on va faire? Ça aussi, c'était des géants, alors que Jésus était là. Et à chaque fois, Jésus a agi de manière miraculeuse, n'est-ce pas? Mais peu de temps après, si on regarde dans Matthieu chapitre 16, verset 7, Jésus dit, mais écoutez, vous ne comprenez toujours pas. Vous n'avez toujours pas de foi, malgré tout ce que j'ai fait auparavant. Alors, nous arrivons à l'application dans notre vie. Nous serons peut-être un jour face à des géants lors de notre vie, ici-bas. Peut-être que c'est même le cas, aujourd'hui même. Sur le plan individuel, mais peut-être aussi sur le plan communautaire. Ces géants peuvent s'appeler le chômage, la maladie, peut-être l'éducation des enfants. Pour certains parents, l'éducation, c'est vraiment quelque chose qui les dépasse. Peut-être qu'il y a un concours qui nous fait peur, un entretien d'embauche, les problèmes financiers, peut-être la persécution quotidienne, physique ou morale, dans notre travail. Autant de géants qui peuvent jalonner notre vie de chrétien. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Hein. C'est pas une vie de bisounours, comme on dit. Nous avons bien sûr des moments de joie, heureusement, mais aussi nous devons préparer à affronter des géants. Alors que faire? Nous pouvons d'abord crier à l'Éternel. Lui crier et lui exprimer ce qu'on ressent. Seigneur, j'ai peur. Nous sommes humains avant tout, il est légitime de faire part à Dieu de nos difficultés, de nos craintes, de nos doutes, de nos peurs. Seigneur, là, moi il m'arrive de dire, là vraiment, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire là. Il m'est arrivé de dire, mais Seigneur, où est-ce que tu veux m'amener là? Pourquoi tu es en train de bouleverser ma vie alors que jusqu'ici tout allait bien? S'il te plaît, interviens, là je peux plus, là je suis mort. Crier à l'Éternel. Et d'ailleurs dans les psaumes, vous allez voir que plusieurs psaumes contiennent des cris à l'Éternel. Hein. Pas des murmures, hein, des cris. Différence. Et on peut aussi, après, faire l'inventaire de ce que Dieu a fait dans le passé. Il y a un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, et tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. » Sur Internet, j'ai vu une initiative, enfin une recommandation en disant « Voilà, pour cette année 2017, vous prenez un grand bocal en verre, je ne sais pas, peut-être que vous avez vu ça, mais à chaque fois que vous avez des bénédictions, des choses, des exaucements de prière, eh bien vous mettez dans un petit papier, vous pliez le papier et vous mettez dans le bocal, et puis rendez-vous dans un an. Vous ouvrez et vous regardez. Ouais. Le Seigneur fait des choses merveilleuses dans notre vie. Et on oublie facilement. Se souvenir que ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui, il peut le faire demain. Et enfin, il est important de mettre en action notre foi. Notre foi n'est pas une foi statique, c'est une foi dynamique. Alors, c'est vrai qu'on peut être facilement tenté de dire, ben, j'ai pas la foi. Mais, en notre qualité d'enfant de Dieu, en notre qualité d'élu de Dieu, c'est d'abord le Seigneur qui nous accorde ce don de la foi. Dans Éphésiens chapitre 6, 23, dans Philippiens 1, 29, on voit que c'est un don. Et ce n'est pas une foi statique, encore une fois, mais c'est une foi en action. Et dans notre parcours chrétien, d'ailleurs, Dieu nous demandera de faire des pas de foi. On verra prochainement, quand le peuple d'Israël a traversé le Jourdain, dans Josué au chapitre 3, à un moment donné, Dieu demande au sacrificateur qui portait l'arche, d'abord, de mettre le pied dans le Jourdain. Et dès que les sacrificateurs ont mis leur pied dans le Jourdain qui était à ce moment-là en cru, pas facile, eh bien, en amont, Dieu a arrêté le cours du Jourdain. Ils sont passés à sec. Et là, aux portes de Canaan, Dieu a mis la foi des Israélites à épreuve. Alors, on a dit tout à l'heure que voilà, vous êtes arrivés aux portes de ce pays que l'Éternel vous donne. Il est là, à portée de main. Mais, malheureusement, dans le texte que nous venons de lire, c'était un acte manqué, une occasion perdue d'Israël pour franchir les portes de Canaan et conquérir le pays. Parce qu'ils ont manqué de foi. Et la question que nous devons nous poser, c'est nous-mêmes, quelle est la profondeur de notre foi, notre degré de confiance en l'Éternel. Alors une petite anecdote, vous savez, à Madagascar, la saison de pluie, c'est un véritable géant qui paralyse vraiment toute une ville, toute une population. Ça commence à peu près au mois de novembre, décembre, jusqu'au mois de février, parfois un peu plus. Mais c'est des grosses, grosses pluies. Et il faut tenir compte de cette période pour toutes les activités, notamment les activités en plein air, y compris les activités d'église. Et on raconte qu'une église projetait quand même de faire une évangélisation en plein air, mais pendant cette période de pluie. Et c'était une véritable source d'angoisse pour les organisateurs, pour les responsables. Et donc, ils ont décidé, pour préparer l'événement, voilà, il va y avoir un temps de prière, d'intercession spéciale. On a déjà fixé la date de cette évangélisation. On va prier pour demander qu'il ne pleuve pas à ce moment-là. Donc, jeûne, prière, etc. C'est vrai qu'en Europe, par exemple, on a souvent tendance à se fier à la météo. Hein, on considère la météo comme une science plus ou moins exacte. Mais dans d'autres pays, souvent la météo est un peu aléatoire, donc ça peut changer. La réalité peut être complètement différente des prévisions. Et le jour de l'évangélisation, en plein air, tout le monde est arrivé en masse. Ceux qui avaient participé activement à la réunion du groupe d'intercession, en prière, sont venus apparemment confiants que le Seigneur va agir. Mais ils sont venus avec quoi dans leur sac? Des parapluies. Au cas où. Vous savez, frères et sœurs, la foi consiste aussi à croire que le Seigneur commande à la création, puisqu'il est le maître de la création, que le Seigneur peut faire des choses surnaturelles comme retenir la pluie. Et moi, je peux vous dire qu'une fois, on a vécu ça dans notre église à Madagascar. On avait fait une fête de Noël, vous savez, la fête de Noël au mois de décembre, c'est une fête, où, enfin, c'est une période où il pleut, et surtout l'après-midi, et la fête de Noël était un après-midi. Eh bien, cette fête de Noël, on avait peur que les gens ne viennent pas. Les gens sont venus. Une fois à l'intérieur, il a plu. Donc la fête de Noël s'est bien déroulée. Mais la pluie n'a pas empêché les gens de venir. La foi consiste à croire que Dieu peut faire des miracles et agir infiniment plus que ce que nous demandons ou espérons. Alors en conclusion, je ne sais pas quels peuvent être les géants dans notre vie. En tout cas, ils ont souvent effet de faire peur aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Mais face à cette peur, tout en sachant que cette peur, en fait, c'est le diable qui est derrière. Le diable veut nous impressionner, veut nous faire croire que Dieu n'est pas capable. Face à cela, le Seigneur est toujours auprès de nous. Et il nous demande de ne pas nous inquiéter. Dans Matthieu chapitre 6, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit « Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. » Face aux géants, regardons d'abord le Seigneur. Arrêtons-nous d'abord et voyons, consultons le Seigneur. Au lieu de tout de suite nous révolter disant « Mais Seigneur, pourquoi tu fais ça ?» Bon, on peut demander, mais dans le sens de se révolter, ce n'est pas la bonne attitude. Mais les géants sont aussi des épreuves, souvent ce sont des épreuves que le Seigneur permet pour nous éprouver notre foi, tester notre foi, mais aussi pour affermir notre foi, pour nous faire grandir spirituellement et nous rendre plus forts. Alors, face aux géants, bien, que le Seigneur puisse nous accorder à chacun d'avoir une foi toujours croissante, nous appuyer sur notre expérience avec le Seigneur, nous appuyer sur les attributs de Dieu, nous souvenir que Dieu, c'est celui qui peut agir, qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que même si les géants sont là, qui se dressent sur notre route, nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Dans Romains chapitre 8, 31, la parole dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pas les géants, en tout cas. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Tu nous appelles à te faire confiance en toutes circonstances. Tu nous appelles aussi à utiliser notre mémoire pour nous souvenir de tous tes actes passés. Et Seigneur, c'est vrai que si nous comptons tous ces bienfaits, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, eh bien, effectivement, ils sont nombreux. Pardon pour toutes les fois où nous avons eu la mémoire courte. Pardon, toutes les fois nous sommes laissés impressionnés par les obstacles. Pardon, Seigneur, d'avoir fait le jeu du diable. Aide-nous dans notre vie de tous les jours, face aux géants qui se dressent ou qui se dresseront encore. Seigneur, de faire preuve de foi, de mettre en action notre foi. Seigneur, parce que nous savons que tu es toujours présent, que tu es là, que tu ne nous oublies pas, que tu es maître de toute situation, et que si les épreuves sont là, c'est pour nous affermir davantage dans notre foi et dans notre dépendance à toi. Merci, dans le nom de Jésus. Amen.